En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
L'Académie des sciences morales et politiques a lancé une série de colloques internationaux sur le thème de la guerre et de la société. Le 17 et le 19 janvier 2013, grâce au soutien de la Fondation Simone et Cino del Duca abritée au sein de l'Institut de France, une vingtaine de participants se sont réunis autour du thème spécifique de la guerre et de la politique, le premier volet d'une démarche scientifique interdisciplinaire qui durera 3 ans. Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de la communication de Jean Guilaine, professeur au Collège de France et directeur à l'École des hautes études en sciences sociales. Son intervention s'intitule « La genèse de la guerre ».
On a longtemps eu sur les origines préhistoriques de la guerre des idées préconçues. Cela tenait pour beaucoup à la minceur du sujet, du dossier documentaire sur le sujet, peu de données démonstratives, donc improbabilité des conflits. Tout au plus, admettait-on, dans une optique matérialiste, que les premiers indices d'affrontement devaient être corrélés avec le néolithique, le développement de l'agriculture et de l'élevage, créant des stocks, des surplus, donc des richesses, susceptibles d'aiguiser l'envie de voisins moins bien lotis. On admettait mal, par contre, que des tensions aient pu exister chez les chasseurs-cueilleurs paléolithiques ou mésolithiques. Plusieurs arguments semblaient conforter ce point de vue. Dans les sociétés à faible densité démographique, comme l'étaient les populations paléolithiques, les motifs d'affrontement sont peu courants, pensait-on, les humains ayant plutôt une propension à la solidarité pour faire corps contre les agressions de la nature ou des animaux. D'autre part, le mythe philosophique de l'âge d'or, paléolithique, l'homme vivant dans une nature paradisiaque, prodiguant ressources, campait de l'humanité une image originelle apaisée et vertueuse, laquelle trouvait un parallèle scientifique dans certaines théories anthropologiques, vantant alors un âge d'abondance, et j'ajouterai, de douceur de vivre, contrastant avec la pénibilité des travaux des champs, ou avec les contraintes de la gestion permanente des troupeaux des sociétés agropastorales. L'on sait toutefois que les sociétés humaines entretiennent entre elles des relations fondées sur le mode pacifique, coopération, entraide, alliance, ou au contraire, des antagonismes et des mésententes, sources de conflits. Or, l'archéologue, en raison de la matérialité même des données qu'il étudie, est plutôt porté à observer des témoins liés aux rapports que les communautés construisent avec leur milieu, naturel ou culturel. Habitation, établissement, exploitation de territoire, processus de dons et d'échanges, sépultures sont perçus comme autant de faits positifs dans la mesure où ils traduisent la quête d'une rentabilisation de l'environnement, d'une recherche du mieux-être, de rapports de bon voisinage et d'un ancrage au sol que symbolisent notamment les nécropoles. Par contre, les comportements d'agression, les affrontements, les morts violentes, la face barbare de l'humanité sont le plus souvent tues. Outre la perception négative qu'on peut avoir de tels actes, ceux-ci se laissent plus difficilement appréhender par l'archéologue. Ces silences ne facilitent pas une lecture objective des relations sociales et le chercheur doit souvent redoubler d'efforts pour parvenir, à partir de sa documentation, à lire la violence et la guerre d'autrefois. Depuis 2 décennies, toutefois, une prise de conscience s'est fait jour pour tenter de restituer la place que les conflits ont pu occuper dans les sociétés anciennes. La guerre préhistorique et proto-historique, longtemps niée, a fait l'objet d'une prise de conscience au point même de devenir l'un des sujets porteurs de la recherche archéologique. La bibliographie s'est emballée. D'où est parti cet engouement? À mon sens, d'une certaine forme de capillarité entre anthropologie, histoire et archéologie, chaque champ méthodologique en semençant ses voisins, le tout se terminant parfois dans une heureuse transdisciplinarité. L'anthropologie d'abord avait engrangé depuis longtemps des données sur les guerres entre populations pré-étatiques. Elles ont alimenté divers débats théoriques. Ainsi, dans ses recherches d'anthropologie politique, parues en 1980, Pierre Clastre, soulignant la place que la guerre occupait chez certaines populations de chasseurs-cueilleurs ou d'agriculteurs primitifs, pense que ces sociétés étaient violentes. Je le cite, « leur être social est un être pour la guerre ». Une telle thèse sous-entendait que les chasseurs-cueilleurs du paléolithique européen pouvaient avoir connu semblable comportement. On trouvera un écho de cette vision dans l'ouvrage de Laurence Killet, War Before Civilization, publié en 1996, qui reproche aux archéologues d'avoir dans leurs écrits campé un passé pacifié, fort loin, selon lui, de la réalité. Pour autant, des opinions contraires se sont aussi exprimées. Ainsi, Ferguson, dans une perspective un peu rousseauiste, voit la préhistoire comme un monde pacifique dans lequel la guerre n'apparaîtrait que tardivement, tout en restant peu fréquente. Il se méfie de l'analogie ethnologique, souvent sollicitée, certaines populations considérées comme guerrières n'étant devenues belliqueuses qu'une fois entrées en contact avec les colons européens. Ces controverses, parfois vives, posaient déjà la question de la guerre préhistorique. L'intérêt de l'archéologie pour les origines de la guerre est par ailleurs synchrone des événements historiques qui ont marqué le retour de celle-ci en Europe dans les années 80 du siècle passé. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans une Europe en paix, le contexte intellectuel dans lequel opéraient archéologues et ethnologues les conduisait à évoquer des sociétés laborieuses, solidaires, unies par diverses formules d'alliance, autant dans la sphère occidentale que dans le bloc communiste. Il a fallu que sur notre continent surgissent des conflits en Bosnie, au Kosovo ou en Tchétchénie, pour que le thème de la guerre apparaisse ou réapparaisse dans les programmes de recherche archéologique. L'histoire contemporaine, ne serait donc pas étrangère à cette réévaluation et pourrait avoir servi de moteur déclenchant à l'archéologie des temps plus anciens. D'autre part, l'implication de l'archéologie dans la reconnaissance de faits de guerre parfois récents montre la place que la discipline peut jouer dans l'élucidation de certaines questions historiques, loin de l'usage des textes. Les exemples de collaboration entre archéologues et anthropologues sont ainsi jalonnés d'expériences récentes dans la fouille de charniers. Par exemple, ceux ouverts à Vilnius, en Lituanie, et concernant la grande armée napoléonienne décimée par le typhus lors de la retraite de Russie, ou ceux consécutifs au tout récent génocide opéré en Bosnie et au Rwanda, et aujourd'hui méthodiquement fouillés par des archéologues dans le but d'identifier les victimes. Rappelons aussi la belle fouille opérée par des archéologues sur la fosse commune, enfin redécouverte, du petit détachement exécuté par les Allemands le 22 septembre 1914 à Saint-Rémy-la-Calonne, Meuse, et qui renferme la dépouille d'Alain Fournier. Histoire et archéologie sont donc ici très largement complémentaires et opératoires. S'agissant des périodes pré- et proto-historiques, l'intérêt pour le décryptage d'anciens affrontements a été stimulé par des découvertes inattendues qui ont contraint les chercheurs à revoir certaines thèses ou à effectuer une relecture de documents connus de longue date, mais trop rapidement interprétés. Ainsi, parmi les découvertes ayant eu un effet déclenchant sur la reconnaissance de tueries préhistoriques, on citera le charnier néolithique découvert en Allemagne dans les années 80 du siècle dernier, à Thalheim, près d'Elbrom, en bas de Württemberg, est daté aux alentours de 5000 avant notre ère. Les dépouilles de 34 personnes, les hommes, vous avez leur silhouette sur le côté gauche, les femmes au milieu, les enfants de l'autre côté. 34 personnes, donc hommes, femmes, enfants, victimes d'un massacre collectif et jetées pêle-mêle dans une fosse commune. Au titre des opérations anciennes revisitées et réinterprétées, on mentionnera le cas mésolithique cette fois, c'est-à-dire chez des chasseurs-cueilleurs, dans la deuxième moitié du 7e millénaire avant notre ère, le cas donc d'Ofnet. Alors, ceci illustre l'exemple précédent, et vous voyez par exemple brisé à la hache de pierre, dont vous avez des exemples en bas, des crânes qui ont conservé évidemment encore la forme de la section de l'outil qui a servi à les emboutir, à les fracasser. Donc, je change d'exemple, l'exemple d'Ofnet en Bavière, où deux fosses renfermaient respectivement 28 et 6 crânes, se rapportant à une population des deux sexes et de tous âges. Des traces de découpe sur des vertèbres cervicales indiquent des pratiques de décapitation. Plusieurs sujets portent des enfoncements dus à des coups mortels assénés sur la voûte crânienne ou la nuque. Si certains auteurs y voient un rite funéraire consistant à prélever des têtes pour les enterrer successivement, d'autres auteurs, favorable à l'idée d'une mise en terre collective et concomitante, penche pour l'hypothèse d'un massacre. Enfin, Un exemple individuel mais très médiatisé de violence préhistorique est celui d'Ozzi, dont la mort sur un haut sommet des Alpes austro-italiennes, vers 3200 avant notre ère, est imputable à un tir d'archer l'ayant atteint à l'épaule gauche. Alors vous avez donc le fameux Ozzi avec des reconstitutions, il y en a eu beaucoup bien sûr, et vous avez la zone où vous avez la blessure ici, sur le côté droit de la diapositive, de l'image, qui vous montre la zone où le sujet a été touché et tué, puisqu'il en est mort. Ces diverses interventions archéologiques sur le terrain ou en laboratoire ont progressivement fait prendre conscience à la profession que la guerre ne devait pas être négligée dans toute approche des populations pré- et proto-historiques. Il demeure pourtant, j'insiste, que l'archéologue éprouve toujours en ce domaine quelques difficultés méthodologiques qui tiennent à la nature même de sa documentation et dont je soulignerai quelques aspects. Premièrement, si des traces de violence sont très anciennement observées, ne s'agit-il pas la plupart du temps de règlements de comptes individuels, parfois même de meurtres rituels, plutôt que de conflits entre deux communautés? On touche ici à des problèmes de définition. La démarcation entre violence et guerre n'est pas aisée. Et s'il m'arrive d'employer le terme « guerre » pour le temps des chasseurs-cueilleurs ou des premiers agriculteurs, on doit être conscient que ces conflits ne font appel ou ne faisaient appel qu'à un nombre limité d'intervenants. Il s'agit plutôt de raids, d'escarmouches, d'affrontements entre petites unités. Deuxièmement, le lieu de l'action, le champ de bataille, est dans la plupart des cas introuvable, sauf lorsqu'il s'agit de tuerie, d'une tuerie opérée dans un habitat assiégé. Il s'ensuit que l'archéologue dispose d'un nombre considérable d'armes, qu'il entrevoit une évolution dans le temps du combattant et de sa panoplie guerrière, mais qu'il a beaucoup de mal à mettre en situation ce personnage, par manque bien sûr de texte, et faute également d'une iconographie des combats. Troisièmement, enfin, on doit mesurer que plus l'on remonte le cours du temps, plus la documentation se réduit, devient d'interprétation délicate et ne permet pas de diagnostic certain. Telle est la situation pour la plus grande partie des temps paléolithiques, anciens et moyens notamment. Les données s'étoffent un peu plus pour le paléolithique supérieur, mais deviennent assez conséquentes pour les temps mésolithiques, donc toujours chez des chasseurs-cueilleurs. La documentation ensuite devient plus abondante au néolithique et à l'âge du bronze, où dès lors les esquisses deviennent plus fiables, tout en alimentant les discussions à leur sujet. Alors après ces considérations théoriques, un peu longues mais nécessaires, tâchons, à partir d'exemples concrets, de faire le point à partir de chacune des grandes périodes de la préhistoire, de ses débuts jusqu'à la fin de l'âge du bronze. Premièrement, la violence paléolithique. Comment interpréter les données du site de Trinchera Dolina, à Atapuerca, en Espagne, près de Burgos, daté de 800 000 ans avant notre ère, où les restes de plusieurs individus mêlés à de la faune consommée et présentant sur les eaux de semblables stries de décarnisation ont été retrouvés? Cannibalisme rituel? Consommation de victimes consécutives à un affrontement? Cette dernière hypothèse a été avancée. Dès le paléolithique ancien, des blessures, des chocs ou des cicatrices sont observées sur des ossements humains. Leur interprétation n'est pas facile. Séquelles de confrontation? Lésions accidentelles, voire avatars post-dépositionnels? Le dossier est plus fourni s'agissant des Néandertaliens et des traumatismes ont été décrits sur des sujets divers. À Shanidar, en Irak, Ebara, Taboun, Skoul, en Israël, en France, la Ferrassi, la Chapelle aux Saints, Saint-Césaire, vous avez ici le sujet de Saint-Césaire. Certains auteurs soutiennent pour expliquer ces blessures l'existence d'affrontements plutôt que de simples accidents. Ici, vous avez un sujet qui a reçu un choc sur la tête le long de la ligne qui est indiquée. Dès que l'on arrive à l'homme moderne du paléolithique supérieur, les sources documentaires s'élargissent. Les données anthropologiques sont plus nombreuses, l'armement devient plus sophistiqué, l'iconographie rupestre peut être questionnée. Pour autant, les données restent assez maigres. On connaît des sujets atteints par des projectiles, par exemple dans une sépulture double de Grimaldi, une femme de San Teodoro en Sicile, la vertèbre traversée d'une lame, voyez, le dessin est ancien, il remonte au XIXe siècle, la vertèbre traversée d'une lame de quartzite à Montfort, sur le site de Montfort, à Saint-Lizier, Ariège. Dans la grotte de Mazika, en Pologne, des individus ont été décapités, désarticulés et peut-être consommés. La donnée la plus suggestive est fournie par la nécropole du Djebel Saaba, au Soudan, datée du paléolithique final, vers 12 000, 11 000 avant notre ère. Dans des fosses contenant de 1 à 5 individus, alors vous avez ici les armatures qui ont servi à blesser ou à tuer les sujets, et vous avez ici l'exemple d'une des sépultures avec les crayons qui indiquent la direction, en quelque sorte, des traits, des projectiles qui ont touché les individus. Dans des fosses contenant de 1 à 5 individus, enterrés à la va-vite, semble-t-il, reposaient les dépouilles de 59 sujets, hommes, femmes, enfants, dont 24 au moins avaient succombé à des impacts de flèches encore fichés dans leurs ossements. Il ne s'agit là que d'un chiffre minimal, des flèches erratiques trouvées dans les autres fosses étant certainement les restes de projectiles ayant atteint les autres sujets dans leur chair. Il est vraisemblable que toutes les dépouilles de cette nécropole ont été victimes de ces affrontements. Le Djebel Saba est certainement l'exemple le plus démonstratif d'un conflit paléolithique faisant appel à une violence meurtrière, je dirais entre guillemets, de masse. Les données de la rupestre sont parfois ambiguës. Les anthropomorphes des grottes ornées du Quercy paraissent bien être des hommes blessés par projectiles, tandis que ce qu'on appelle l'homme tué de Kosker, que vous avez ici, est beaucoup plus ambigu. Et la tête serait ici, le corps ici, ici il y aurait le bras avec une main écartée, et puis il aurait reçu ces deux traits. Mais je vous dis tout de suite que ce document ne fait pas l'unanimité chez les archéologues. Cet homme tué de la grotte Kosker, donc, est plus douteux. L'étonnante scène de la Daoura, que vous avez ici, dans une cavité proche de Palerme, montre deux personnages probablement suppliciés. Vous voyez, vous avez toute une série de personnages assez étranges en train de tendre les mains avec des sortes de becs d'oiseaux, des coiffures un peu bouffantes. Et puis vous avez deux personnages au milieu, que voici en détail, n'est-ce pas, qui sont disposés sur le ventre, bien ligotés et les jambes ployées, vous le voyez, sur le postérieur. Une corde semble relier leurs chevilles à un possible nœud coulant fixé au cou. Le moindre geste de redéploiement des jambes, inévitable dans une telle position, entraîne l'étranglement et l'asphyxie des victimes. Et c'est peut-être le sens de cette scène. Exécution, sans émission de sang, de deux individus, sur lesquels on peut discuter, prisonniers, condamnés pour avoir enfreint certains codes, etc. La rupestre australienne plus tardive de la terre d'Arnhem, au nord du pays, nous offre également des scènes de combat dans la longue durée de la préhistoire des aborigènes chasseurs-cueilleurs. Vers moins 10 000, ce thème se limite à des affrontements entre deux sujets ou à des représentations d'escarmouches. À compter de moins 6 000, apparaissent des représentations de combats structurés pouvant opposer des groupes d'individus. Après moins 3 000, les scènes de combat deviennent plus nombreuses et attestent d'une violence accrue. On retire de ces données l'impression que la complexité sociale grandissante au fil du temps a accentué les causes de conflits au sein des sociétés de chasseurs-cueilleurs. Deuxièmement, les derniers chasseurs-cueilleurs, le Mésolithique. C'est dans l'Ancien Monde, lors de temps post-glaciaire, que les traces de blessures par flèche deviennent soudain plus visibles. Faut-il voir le résultat d'une invention technique survenue vers la fin des temps paléolithiques, c'est-à-dire l'apparition et la diffusion rapide de l'arc, qui va rester jusqu'à l'âge du cuivre l'arme essentielle? On peut poser la question. Pour l'archéologue, en tout cas, les témoignages de la violence et des combats se font plus voyants. Même les natoufiens du Levant, en tant considérés comme pacifiques par qu'il est, montrent des cas de blessures et de traumatismes. Vous avez ici la colonne vertébrale et vous avez ici, vous voyez, dans une vertèbre, vous avez un élément de silex fiché dans cette vertèbre. Dans un certain nombre de nécropoles de cette époque, on retrouve des sujets tués ou blessés par impact de projectiles et parfois en nombre élevé. Ainsi, sur le Danube, les sujets des nécropoles de la région des Portes de Fer, en rive droite, ne montrent que des traces sporadiques de violence. Mais par contre, les nécropoles de la rive gauche, en aval des gorges, dans un secteur plus disputé et moins protégé naturellement, présentent des taux d'accrochage beaucoup plus élevés. 19 blessés ou tués sur 57 sujets mis au jour dans la nécropole de Chelak-Ladovei. Des impacts mortels de projectiles sont également attestés dans plusieurs cimetières mésolithiques d'Ukraine, mais également du nord de l'Europe. On ne sait trop comment interpréter ces épisodes meurtriers. Cas isolés, règlement de compte, le cas de Chelak-Ladovei fait plutôt penser à de vrais conflits, mais on ignore si les sujets tués l'ont été en un seul épisode ou lors de plusieurs événements successifs. De façon plus globale, il semble que la violence ait pu être une composante fréquente de ces dernières sociétés de chasseurs-cueilleurs. Ainsi, outre un sujet tué par flèche de la nécropole de Teviec, en Bretagne, on connaît dans ce même cimetière une tombe double, longtemps considérée comme recélant un couple, ce qui posait déjà l'alternative du décès concomitant des deux individus ou de l'élimination d'un sujet à la mort de l'autre. Mais un récent réexamen des dépouilles a montré qu'il s'agissait en fait de deux femmes qui ont été massacrées par de violents coups sur le crâne. Choc en particulier sur l'une d'elles, est placée dans une fosse creusée à leur intention, avec une évidente mise en scène, puisque les dépouilles sont parées, vous voyez, elles ont des colliers de coquillages, et il y a également cette toiture avec aménagement de bois de cerf. La pratique de meurtre rituel n'est pas ici à exclure. L'impression de cette sensible montée en puissance des affrontements au mésolithique pourrait être liée à une plus grande fixation au sol, dans le cadre d'une sédentarisation embryonnaire et d'une compétition accrue pour les terres écologiquement les plus fournies en ressources naturelles, dans un contexte d'économie désormais à large spectre. Troisièmement, les conflits néolithiques. Le néolithique et l'avènement des sociétés agricoles n'ont pu que favoriser la multiplication des conflits. Création de territoires stables et accroissement des problèmes de frontières, politique d'expansion, renforcement de l'affichage identitaire, richesse alimentaire convoitée, récoltes ou troupeaux, pression démographique, compétition pour le pouvoir, montée en puissance des inégalités sociales, autant de motifs de tension inter- et intracommunautaires. Des massacres au sein des mêmes grands ensembles culturels existent. Le sujet de Teviec, un autre sujet de Teviec, sur la revue. Bon, la diffusion du néolithique. Alors, on revient à Talagne. Des massacres au sein de grands ensembles culturels existent dès les débuts du néolithique européen, par exemple avec ce qu'on appelle le néolithique danubien, vers 5000 avant notre ère. On a évoqué, on le revoit, le massacre de Talagne, en bas de Württemberg. La fosse commune renfermait les membres de trois familles, identifiées par des analyses chimiques au strontium et aux isotopes de l'oxygène de l'émail dentaire, trois familles donc qui ont été éliminées. Les femmes d'une famille sont absentes, peut-être ont-elles été victimes de rats. Semblables tueries ont été signalées sur le site en Basse-Autriche d'Aspernschlätz, vous voyez les fossés de délimitation de ces sites, et il y a toute une série de cadavres dans ces fossés. Un cas particulier constitué par le site d'Erxheim, dans le Palatinat. On y a mis au jour plusieurs centaines de calottes crâniennes d'individus jeunes, victimes de cannibalisme rituel, ou bien sur des sujets enlevés, ou bien au sein d'une même communauté. On a du mal à répondre. La question des meurtres rituels, déjà évoquée au sujet de Teviec, peut être à nouveau posée, en contexte néolithique cette fois, à propos de trois sépultures des châteliers du vieil Osée, en Vendée, datées de la seconde moitié du IVe millénaire. Dans chacune de ces tombes se trouvaient un jeune adulte et un adolescent, tous deux massacrés par des coups donnés sur la tempe, tandis que leur corps présentait divers impacts de flèches. À chaque fois, les dépouilles ont été disposées de façon symétrique, soit côte à côte, c'est le cas ici, soit tête bêche, comme vous voyez. Cette mise en scène montre une certaine considération envers ces couples de défunts dont les raisons de la mort nous échappent. La montée des conflits vers la fin du néolithique, période marquée par une forte densification de l'habitat, peut être déduite de nombreux exemples de blessures. Alors, ça, c'est l'un des sujets du châtelier du vieil Osée. Vous voyez la vertèbre ayant reçu un impact, et vous l'avez également ici, sur cette image. Donc, à la fin du néolithique, on retrouve, vous voyez, de nombreux ossements, et souvent des vertèbres, percés de flèches, n'est-ce pas ? Et toute chose que l'archéologue repère aisément. Il est vrai que la pratique à cette époque en Occident de la tombe collective entraîne une hausse de la documentation anthropologique, augmentant ainsi les chances de débusquer des morts violentes. Par exemple, les sépultures collectives, et dans ces sépultures collectives, vous voyez, par exemple, un crâne qui a reçu un choc sur le crâne. On peut les repérer assez facilement. En contrepartie, beaucoup de blessures létales ayant atteint leurs victimes dans les parties molles du corps ne laissent guère de traces archéologiques et risquent de fausser toute estimation en ne prenant pas en compte des sujets réellement éliminés lors de conflits. D'où la nécessité de repérer dans les tombes collectives les flèches, les pointes de flèches ayant accompagné dans le caveau des individus touchés dans leurs muscles ou leurs viscères. La décomposition des chairs libère dans un second temps ces projectiles devenus erratiques mais ayant participé à des impacts mortels. J'ai pris un exemple ici, dans la partie basse de la diapo. J'ai pris l'exemple de l'hypogée de la coste de Can Martorell, en Catalogne, qui recèle les restes d'une population, entre guillemets, anormale au plan démographique, car elle est composée à peu près uniquement de jeunes adultes. La présence parallèle dans ce caveau de nombreuses flèches erratiques, c'est le cas ici, est un argument en faveur de l'élimination de tels défunts. L'une des meilleures sources documentaires sur les conflits néolithiques provient de l'iconographie rupestre de l'Espagne méditerranéenne, de l'Aragon à la cordillère bétique. On parle d'art du Levant espagnol pour évoquer des scènes très dynamiques qui sont très souvent des scènes de chasse. Vous avez ici toute une série d'archers, vous voyez, c'est très vivant, qui chassent des cervidés, chassent aux cerfs et aux sangliers. Et ces tableaux, ces peintures ont longtemps été attribués à des populations de chasseurs. Or, divers détails semblent indiquer une attribution de cet art au néolithique, c'est-à-dire à des agriculteurs. On y connaît plusieurs scènes de bataille. Ce sont des combats d'archers. Vous en avez un ici, vous voyez, vous avez un groupe d'archers ici et un groupe d'archers en face. Ce sont des combats d'archers qui opposent deux groupes d'intervenants. Certains détails sont intéressants. Vous avez par exemple toute une série de réservistes, si je puis dire, qui arrivent au combat dans la partie gauche haut de la diapo, que voici en détail. Vous voyez que les combattants sont des mâles, le sexe est représenté. Ces combattants peuvent avoir des coiffures, ils sont en quelque sorte préparés pour la guerre. Vous voyez par exemple, qu'est-ce qui se passe là ? Celui-ci qui est probablement le chef, vous voyez, il a toute une série de plumes sur la tête, au postérieur, au genou. Et en même temps, vous voyez, il y a une stratégie. Il est en quelque sorte couvert, si je puis dire, le chef, par des personnages qui le précèdent. Hein ? Ou des vêtements spécifiques. Les chefs sont signalés par leur plus grande taille. Et par exemple, celui-ci semble, dans ces deux combats d'archers, semble être le personnage principal. Par leur plus grande taille, ils peuvent être couverts donc par des subordonnés qui les protègent. On connaît aussi des scènes d'exécution, de prisonniers, de condamnés par des pelotons d'archers. Vous avez ici deux pelotons d'archers et vous avez la victime criblée de flèches qui se trouve allongée. Bon. Quatrièmement, émergence idéale du guerrier. Le néolithique présente l'intérêt d'être au cœur d'une évolution menant du chasseur paléolithique au guerrier à plein temps qui se manifestera évidemment plus tard, vers la fin de l'âge du bronze, au cours du premier âge du fer. Sépultures, armes et iconographies scandent cette trajectoire. Ainsi, les tombes de la culture de Cerny, au 5e millénaire dans le bassin parisien, renferment des dépouilles d'hommes qui tentent surtout d'afficher leur talent de chasseur, comme semblent l'indiquer les parures qu'ils exhibent en référence à des animaux sauvages abattus, des défenses de sangliers, des craches de cerfs, par exemple. Mais l'apparition au 4e millénaire d'une nouvelle arme, le poignard, d'abord poignard de silex, comme c'est le cas ici, ensuite poignard de cuivre, plus tard de bronze, devient vite l'élément emblématique de la masculinité. Le poignard sera systématiquement représenté au 4e et 3e millénaire sur les statues menhirs et stèles anthropomorphes réparties de la Crimée jusqu'à la péninsule ibérique et sur lesquelles il connotera systématiquement les personnages masculins. Alors vous voyez, vous avez de gauche à droite une femme et un homme. La femme est toujours représentée par des caractères anatomiques, biologiques, les seins. C'est pas... Les sexes ne sont jamais représentés. Hein. Bon. Et l'homme est toujours représenté par une arme, le poignard. C'est le cas également en bas. Alors, ces personnages masculins sont représentés en tenue d'apparat, tunique, ceinture, baudrier, cape, et nantis d'armes, le poignard, et accessoirement, l'arc, les flèches, les haches, etc. Voici un personnage masculin, vous voyez, avec la ceinture, toute une série de poignards, deux haches, des hallebardes, un poignard dans la partie centrale dans la zone pectorale. Ces figurations contribuent à construire une certaine image du guerrier, un homme en armes, arborant des instruments de guerre ou de chasse, auxquels s'associent des sentiments de domination, de protection, de crainte. Mais contrairement à l'Orient, on est autour de 3000 avant notre ère, là, n'est-ce pas? Mais contrairement à l'Orient, ou à la même époque, ici vous avez les temps d'Ardour vers 2500 avant notre ère, où apparaissent déjà les premières armées, et vous avez ici des prisonniers nus, ici, vous voyez, qui sont emmenés devant le souverain. Et vous avez ici une armée qui est représentée. Et vous avez ici également des chars de guerre qui roulent sur des individus, qui écrasent certains individus, certains adversaires.
C'est
les temps d'Ardour en Mésopotamie, hein, vers 2500 avant notre ère, les fameuses tombes découvertes par Roulet. Contrairement à l'Orient, où apparaissent déjà les premières armées vers 2500, le guerrier des statues menhirs que vous avez vu précédemment reste en Occident idéologique, les combattants étant des intervenants d'occasion dont le courage lors de conflits probablement temporaires permettait d'asseoir le statut social. À la même époque, les armes sont les marqueurs des tombes d'hommes. Alors, culture céramique cordée entre 3000 et 2500 avant notre ère, avec ce qu'on appelle des armes, des haches de bataille ou des poignards. Ou, un peu plus tard, à partir de 2500, culture dite du vase campaniforme, avec des brassards d'archers, des pointes de projectiles en cuivre et des poignards également. Le poignard n'est pas qu'une simple arme de parade. Il peut servir à tuer, vous en avez un exemple ici, qui provient de la côte du Pas de Joulier à Trèves, dans le Gard. Le développement dès le troisième millénaire, sinon avant, en plusieurs points de la Méditerranée occidentale, de systèmes de retranchement en pierre. Alors ici, c'est un exemple oriental, c'est Arad, en Israël, et puis j'ai pris des exemples occidentaux. Ça, c'est Los Millares, dans le sud de la péninsule ibérique. On peut prendre d'autres exemples au Portugal, comme c'est le cas ici, vous voyez, avec plusieurs lignes de défense construites. Tout cela suggère un certain climat de tension. On a parlé à propos de ces fortifications d'ostentation dissuasive, d'investissement de prestige, mais la protection de personnes et de biens dans un contexte de compétition et d'insécurité pourrait en être le moteur essentiel. Le site a plusieurs enceintes de Los Millares en Andalousie orientale, protégées par ailleurs par une dizaine de fortins périphériques, en porte témoignage. Cinquièmement, les métamorphoses de l'âge du bronze. Lorsque l'on parle d'âge du bronze, en gros pour l'Europe, le deuxième millénaire avant notre ère et les débuts du premier, il convient de bien différencier la plus grande partie de ce continent, demeuré un espace de fermes et de villages, de la sphère est-méditerranéenne, où la pyramide sociale, nettement plus accusée, a généré le système des palais, par exemple en Crète et en Grèce, à Mycène, a fortiori dans la zone des États est-méditerranéens, avec l'Égypte, avec les Hittites, par exemple. Dans cette partie du monde, la concentration des pouvoirs a généré des armées permanentes ou levées en fonction des circonstances. Mais en Occident, c'est l'évolution de l'armement qui nous renseigne, alors la Crète, Mycène, je passe rapidement, c'est l'évolution de l'armement qui, en Occident, nous renseigne sur les changements dans la pratique de la guerre et de son idéologie. Le poignard de métal décoré à manche massive, vous en avez un exemple sur la gauche, des débuts de l'âge du bronze, entre 2000 et 1500 avant notre ère, sorte de marqueur de statut, va bientôt, par un savant allongement technique de la lame, donner naissance à l'épée, autour de 1700 à 1500 avant notre ère. Vous avez ici les premières épées de Sardaigne, par exemple. L'épée apparaît pour la première fois en plusieurs points de l'Europe, à la fois dans la sphère mycénienne, en Europe centrale, en Sardaigne et dans la péninsule ibérique. Dès lors, l'épée et la pique, n'est-ce pas, à pointe de bronze, modifient assez profondément les stratégies. On passe désormais à un combat rapproché, à un face-à-face, mieux à même de souligner les qualités de bravoure des acteurs. C'est peut-être alors l'entrée en scène d'un combattant identifié, en regard de l'archer qui avait été le combattant type jusque-là et qui était plutôt embusqué et anonyme, et c'est désormais peut-être le point de départ d'un vrai guerrier, c'est-à-dire de celui qui va faire de l'affrontement une spécialité. Dans le même temps, ce tournant va impulser l'économie du bronze avec la fabrication d'éléments de protection, des casques, des cuirasses, le bouclier, des jambières. Vous avez ici un modèle type de ce que pouvait être un guerrier de la fin de l'âge du bronze vers 1800 avant notre ère. On voit donc que le guerrier ne semble s'être construit que lentement. Au 4e et 3e millénaire, ce n'est encore qu'une représentation idéale, une ébauche, celle que vous avez vue sur les statues menhirs. Mais au 2e millénaire, dès que l'épée et la pique entraînent le déclin de l'arc, l'individualisation du combattant s'accentue, qui en fait un personnage à part. Dès le XIIIe siècle, des sépultures exceptionnelles, comme à Armes, comme celle d'Haguenau, près de Ratisbonne, évoquent l'existence possible de chefs de guerre enterrés avec leur équipement militaire. Vous voyez, il y a ici un sujet qui a deux épées, un poignard, une hache, etc. Sur ce sujet de l'émergence du guerrier permanent, les débats vont bon train en archéologie. Certains auteurs, tels Christian Christiansen, évoquent, à partir des tombes princières de l'âge du bronze ancien de Saxe, d'Armorique ou de Wessex, et de leur équipement, déjà de véritables aristocraties militaires qui, sous des formes diverses, traverseront tout le deuxième millénaire. D'autres auteurs vont moins loin, en faisant remarquer que l'épée, arme nouvelle, traductrice d'évidents progrès techniques, demeure un temps plus un marqueur de statut qu'un instrument à guerroyer. Ainsi, les tombes à épée de la grande, vous en avez quelques exemplaires ici, de la grande nécropole d'Olmo di Nogara, près de Vérone, font-elles la démonstration, au bronze récent, vers les XIIIe, XIVe siècles avant notre ère, de l'existence d'une classe guerrière, ou plus simplement le reflet de la position privilégiée d'une partie de la population masculine, environ une quarantaine de tombes sur 300. Cette deuxième hypothèse n'est pas à exclure. Quand on voit que certaines rares parures féminines, vous avez ici deux tombes de femmes avec de très longues épingles, quand on voit que certaines parures féminines, notamment de longues épingles, semblent connoter systématiquement et à peu près en même nombre certaines tombes féminines. Au reste, en admettant dès lors l'existence d'une classe de guerriers, on peut s'interroger sur son recrutement. Paysans enrôlés de force, hommes libres choisissant leur camp, privilégiés se réservant armes et pouvoirs, mercenaires se liant au plus offrant, si le guerrier est désormais bien identifié par son équipement, son origine, son statut social, l'étendue de ses prérogatives demande à être éclaircie. Il est également intéressant d'observer qu'à côté des armes, la présence dans les tombes masculines d'éléments de toilette, vous avez ici un miroir par exemple, vous voyez sur cette représentation d'une dalle de guerrier, l'existence de miroirs, de rasoirs, de pinces à épiler, de parures diverses, semble indiquer que ces combattants soignaient aussi leur physique. À cette époque, vers les débuts du premier millénaire avant notre ère, la montée de l'insécurité explique le perchement des sites, le développement de fortifications. Tout ceci donne l'impression d'une forte compétition, d'un contexte politique instable en cette fin de l'âge du bronze, d'une course au contrôle des circuits économiques, autant de facteurs qui feront le lit de classes dominantes et des combattants nécessaires à leur protection et à l'extension de leur pouvoir. Tous ces éléments font dès lors de la guerre un tremplin social. Quelle conclusion tirer de toutes ces données ? Si la violence paraît ancienne, la guerre, au sens de confrontation belliqueuse entre deux groupes humains, n'est archéologiquement attestée que vers la fin des temps paléolithiques, ce qui n'exclut pas de plus précoces manifestations. Du paléolithique supérieur à l'âge du bronze inclus, soit sur une bonne dizaine de millénaires, un examen en longue durée renvoie l'image de confrontations qui n'épargne personne, femmes et enfants par exemple. Si les derniers chasseurs et les premiers paysans ont été des combattants d'occasion, on peut dire que l'image du guerrier, ou plus exactement du mâle en armes, s'est peu à peu imposée dans le courant du néolithique, alors même qu'il n'existait aucune armée permanente. Le guerrier proprement dit apparaîtra à l'Est, dans les sociétés mésopotamiennes par exemple, comme un supplétif du pouvoir. Sa gestation sera plus lente à l'Ouest, dans un milieu demeuré plus longtemps rural. Pour autant, l'engrenage de la complexité de la pyramide sociale finira par en faire ici également un acteur incontournable de la société, un spécialiste à plein temps. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre la communication de Jean Guilaine, La genèse de la guerre, lors du colloque international Guerre et politique de l'Académie des sciences morales et politiques, initié par l'académicien Jean Béchler. C'était le 18 janvier 2013 à la Fondation Simone et Chino Del Duca. Retrouvez prochainement l'ensemble des interventions de cet exceptionnel colloque international sur Canal Académie.